Bonjour à tout le monde. Il fait chaud. Alors, avant d'ouvrir la parole de Dieu, une annonce de la part de Brigitte et moi. Nous allons partir mercredi pour quelques semaines. Certains diraient en Terre Sainte, mais à vrai dire, c'est en Écosse. Et donc, vous ne nous verrez pas pendant quelques semaines. Mais on reviendra plus ou moins fin avril. Donc, voilà, l'annonce est faite. Il y a d'autres choses à dire? Pourquoi on y va? Parce que Brigitte aime tellement ce beau pays où il ne pleut jamais. Mais on a des réunions dans des églises là-bas et aussi il y a un peu de temps avec notre famille, plusieurs membres de notre famille qui habitent là-bas. Donc on vous enverra une carte postale ensoleillée. On va devoir photoshopper la carte postale, je crois. En tout cas, ce matin, nous allons lire dans quelques instants quatre versets au début de Hébreux 2. Donc je vous invite à trouver les versets. Hébreux chapitre 2. Il s'agit de notre troisième prédication dans l'Épître aux Hébreux. Le titre, oui, il y a un souci de... Pour le... Tout vient en même temps, normalement. Est-ce que je peux te donner une clé? Est-ce que ça va être mieux? Ok. Problème technique, mais... Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. L'apôtre Paul n'a jamais utilisé PowerPoint. Enfin, à ma connaissance, mais... Ça va venir. En tout cas, le titre de la première... Ah oui. Est-ce que je peux te donner la clé USB peut-être? Et si ça ne marche pas, on peut vivre sans. On dirait le titre de la première prédication dans l'Épître aux Hébreux était « Le message ultime de Dieu par son Fils ». Hébreux 1, versets 1 à 3. Le titre de la deuxième prédication était « Christ est supérieur aux anges ». Hébreux 1, versets 4 à 14. Et dans ce message, il était rappelé que les anges sont des adorateurs, des serviteurs, des protecteurs, des secoureurs, des aidants, parce qu'ils viennent secourir les chrétiens. Ce matin, nous allons lire Hébreux 2, 1 à 4, et le titre qui a été choisi, c'est « La parole du salut ». Donc, je vous invite à écouter la lecture des Hébreux 2, 1 à 4. C'est pourquoi, on va dire dans quelques minutes pourquoi, il commence avec c'est pourquoi. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée, et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Merci beaucoup à l'équipe technique. Vous avez fait des signes, des prodiges et des miracles. Vous êtes des chrétiens bibliques. C'est ce qu'on veut dans cette église. Voilà. Alors, l'auteur de cet épître aux Hébreux, il vient de détailler au premier chapitre quelques aspects de la doctrine de Jésus-Christ. En quelques lignes, il nous explique qui est Jésus. Et ce que Jésus a fait, il nous éclaire quant à la personne de Jésus, quant à la puissance de Jésus et à la position de Jésus. Il est assis à la droite du Père. Par la suite, il explique le rôle des anges. Et cela explique pourquoi, au début du chapitre 2, il dit « c'est pourquoi » ou alors dans d'autres versions, c'est marqué « étant donné que » et puis il nous explique par la suite en quoi cela nous implique et en quoi cela nous concerne aujourd'hui en 2025. Et il commence avec une exhortation. Alors, certains commentateurs appellent cette exhortation un avertissement. Il avertit les chrétiens. Moi, je préfère peut-être le mot « exhortation ». Mais en tout cas, dans ce texte, il exhorte les chrétiens à ne pas s'éloigner de Dieu, à ne pas s'éloigner de la bonne nouvelle. Et dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur inclut plusieurs exhortations ou avertissements pendant la rédaction de cet Épître. Au chapitre 3, on a une autre exhortation ou avertissement. Au chapitre 6, une troisième exhortation ou avertissement. Et chapitre 10, il y a une quatrième exhortation. Et si vous regardez bien, vous allez certainement trouver d'autres moments dans cet épître où l'auteur exhorte ou avertit les chrétiens. Et il les exhorte à rester attachés à la bonne nouvelle. La première fois qu'on a le verbe « attacher » dans la parole de Dieu, c'est dans Genèse 2, où il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il s'agit d'une relation exclusive et une relation qui est aussi faite pour durer, une relation permanente. Et logiquement, les chrétiens s'attachent à l'Évangile de façon exclusive. Il n'y a qu'un Évangile, il n'y a qu'une bonne nouvelle, il n'y a qu'un salut. Et ils s'attachent à l'Évangile de façon permanente. Parce que le chrétien sait qu'il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre sauveur. Un nom, un sauveur a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Jésus. Acte 4, verset 12. Donc, il y a un si grand salut. Le chrétien doit s'y attacher de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. Parce qu'il sait que ce grand salut est unique et il n'y a aucun salut si on néglige ce grand salut. Il n'y a aucun salut si on rejette ce grand salut. Et si vous vous dites, mais pourquoi on dit un grand salut? On parle du grand sauveur, on parle du salut, mais pourquoi est-ce que c'est un grand salut? Eh bien, il y a plusieurs raisons, parce que le salut consiste en plusieurs choses. La justification, alors je ne vais pas expliquer chaque mot que vous allez voir, mais je vous encourage à aller voir un ancien qui connaît tous ces mots par cœur. La justification, l'adoption, la régénération, la réconciliation, la purification, la libération, la glorification, la rédemption, et on peut en ajouter. Tout ça pour dire que le salut que nous avons en Jésus-Christ est vraiment un grand salut. Et parfois on chante « Quel sauveur merveilleux je possède !» Mais on peut aussi chanter « Quel salut merveilleux nous avons ou nous croyons !» Mais le problème, et l'auteur en est conscient, il est possible de s'éloigner de ce salut. Il fait allusion au risque de s'éloigner de la bonne doctrine, de s'éloigner de la vérité biblique au sujet de Jésus, au sujet de sa personne, au sujet de son œuvre. Et l'auteur emploie un terme technique. Il tient à ce que les chrétiens gardent le cap. Parce que quand il dit le risque de s'éloigner, c'est l'idée de partir à la dérive. Vous mettez une petite barque au milieu de l'océan. Quand il y a une tempête force 10, la barque va faire quoi? Tôt ou tard, elle va couler, mais elle va partir à la dérive. Et il a peur que les chrétiens partent à la dérive et qu'ils ne gardent pas le cap à cause de la persécution, à cause de l'opposition, à cause des pressions dans la vie, Et nous connaissons peut-être tous des choses qui pourraient nous éloigner de Dieu. D'où l'importance de dire non parfois. Non, je ne veux pas partir à la dérive. Non, je ne veux pas être entraîné par le courant. Non, je ne veux pas être submergé par les vagues. Je veux garder ma tête hors de l'eau et je veux continuer à croire. Et parfois, on doit dire oui. Oui, je veux garder le cap. Oui, je veux oser. Je dis bien oser nager à contre-courant. Et aujourd'hui, il faut être courageux pour nager à contre-courant. Oui, je veux persévérer contre vents et marées. Le risque, c'est d'être entraîné par autre chose et de s'éloigner de Dieu. Mais nous devons parfois dire non et parfois dire oui. Nous voulons rester fidèles avec le Seigneur. Et cet évangile est une bonne nouvelle qui annonce un si grand salut. Et cet évangile avait été annoncé par le Christ, par les disciples et aussi par les anges. Et quand on regarde l'activité des anges dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on voit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Ils étaient envoyés pour annoncer des choses à des hommes et à des femmes. Ce qui fait peur, c'est qu'il est possible à un chrétien de s'éloigner de la foi. Et vous en connaissez peut-être des chrétiens zélés, doués, consacrés, qui, suite à telle ou telle chose, s'est éloigné de Dieu. Je pourrais vous dresser une liste de gens dans nos 40 ans de ministère, des gens qu'on a vus se donner au Seigneur et changer de vie. Et certains se sont éloignés, mais certains sont revenus en courant pour revenir au bercail. Il peut arriver à un chrétien de perdre son premier amour. Il peut arriver à un chrétien de choisir de ne plus suivre le Seigneur pendant un temps. Il peut arriver à un chrétien de connaître la goutte froide ou une goutte froide. Vous savez, on parle de ça depuis quelques jours. C'est un phénomène météorologique pour décrire une période froide, souvent inattendue. Et il y a des chrétiens qui connaissent une goutte froide. Je vais vous parler d'un qui était chrétien, zélé pour Dieu au 18e siècle, Robert Robinson. Il était musicien, il a composé des cantiques. Mais avec une chose et une autre et une autre et une autre, des compromis, des péchés tolérés, il a arrêté d'aller au culte. Il s'est éloigné du Seigneur. Et il a commencé à vivre comme il voulait. Il était malheureux comme tout, mais il ne voulait pas admettre qu'il était malheureux parce qu'il avait négligé le si grand salut. C'était un homme qui avait composé des cantiques, dont un, au moins un, qui existe en français. C'est un vieux cantique, hein, ceux qui sont des membres du troisième âge comme moi vont connaître ce chant. Mais en tout cas, il a écrit des chants. Et un jour, on était dans une diligence et il a entendu une femme qui était devant lui, qui était en train de chanter ce cantique. Pas vraiment à haute voix, mais juste avec une petite voix. Et il était là, en train d'écouter cette femme chanter son cantique. Et la femme regarde, parce qu'elle se rend compte, mais ce monsieur m'écoute. Qu'est-ce qu'il veut penser des paroles de ce cantique? Oh la vache, c'est la dernière chose qu'il fallait m'attendre. Donc, il commence à dire, mais vous savez, c'est moi qui l'ai composé. Et tout d'un coup, c'était une flèche dans son cœur. Et il s'est rendu compte, Seigneur, je suis vraiment bête. Je connais ça. Ce cantique, j'ai croyé toutes ces paroles et tout est vrai. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Il est revenu au bercail. Il a arrêté de dériver. Il est revenu au Seigneur et il est devenu tout feu, tout flamme pour le Seigneur. C'est comme s'il avait été giflé par Dieu. Vous savez, quand quelqu'un vous gifle, ça fait mal. Mais il a été giflé par Dieu. Il est revenu il est revenu au havre de la paix, où il s'est remis en selle, où il a quitté, s'est repenti de sa goutte froide. Beaucoup de métaphores, hein? Beaucoup d'images. Mais une exhortation, ne vous éloignez pas, s'il vous plaît, de l'Évangile. C'est un si grand salut. On a un si grand sauveur. Pourquoi chercher ailleurs? Exhortation, après l'exhortation, il y a l'explication. Tout en regardant cette exhortation, l'auteur nous fournit une explication. Pourquoi est-ce que des gens s'éloignent de l'Évangile? Alors, il emploie deux mots ici, le mot « transgression » et le mot « désobéissance ». Alors, on peut dire « Ah, mais c'est la même chose ». Mais pas tout à fait. Une transgression, c'est le fait de franchir une ligne rouge. Alors, vous savez, j'avais un ami qui était policier à Belfast pendant les troubles, dans les années 70, on va dire, grosso modo. Et il était envoyé avec d'autres policiers irlandais au Canada pour voir comment les Canadiens réagissaient quand il y avait des manifestations. Et cet ami, il était là-bas et il a participé avec d'autres collègues canadiens et irlandais. Il y avait une manifestation et il s'est rendu compte que les policiers canadiens avaient fait un trait blanc. Ils ont peint un trait blanc au milieu de la route. Ils ont dit aux manifestants, si vous franchissez cette ligne, on va, pas vous tuer, hein, on va ouvrir les canons à eau. Ah, les Canadiens étant très disciplinés, comme les Français, ils n'ont jamais franchi cette ligne, parce qu'ils savaient que là, c'était une transgression. Et notre ami irlandais était impressionné par ça. Il a dit, on va faire la même chose à Belfast. Bon, je ne vais pas vous raconter la suite, mais c'est ça. L'idée, Dieu dit, voilà, si vous franchissez cette ligne, c'est une transgression. Un autre mot, c'est péché. Un autre mot, c'est iniquité. Et puis, il y a des désobéissances. C'est le fait de refuser d'écouter Dieu. Le fait de refuser d'obéir à Dieu. Alors, pour redéfinir, on peut dire que les transgressions, ce sont des péchés de commission, c'est-à-dire des choses qu'on fait, qu'on ne doit pas faire. Tandis que des désobéissances, ce sont des péchés d'omission, c'est-à-dire on ne fait pas ce qu'on doit faire. Vous voyez la différence? Transgression, désobéissance. Et on est tous sujets à la tentation. On peut tous tomber dans le péché. D'où l'importance de se rendre compte de notre vulnérabilité et de lire, de prier, de fréquenter l'Église, de fréquenter les chrétiens, d'avoir des amis chrétiens. Et tout cela peut nous aider, nous sauvegarder, nous protéger de commettre des transgressions et des désobéissances. Tout ça ne va pas nous rendre parfaits, c'est sûr, mais ce sont des aides que Dieu nous donne pour qu'on ne s'éloigne pas de lui. J'ai parlé de quelqu'un, un Anglais, au 18e siècle, maintenant un Américain, au 19e siècle. Il s'appelait D.L. Moody. Dwight Moody, il s'appelait. Et parfois, quand il allait prêcher dans une église, un chrétien disait, ah, « Est-ce que vous voulez bien signer sur la première page de ma Bible ?» Ça se fait, hein. Donc, il avait l'habitude de mettre la même phrase dans chaque Bible qu'il signait. Et voilà la phrase. En parlant de la Bible, « Ce livre vous éloignera du péché, mais le péché vous éloignera de ce livre. » Très succinct, très court, mais très vrai. Exhortation, explication, confirmation. Il est question de cet évangile qui a été confirmé par Dieu. Dans ces versets, nous avons un beau texte trinitaire. Il est question d'abord de Dieu le Fils, ensuite de Dieu le Père, ensuite de Dieu l'Esprit. Ce n'est pas le premier texte trinitaire que nous avons lu au culte ce matin. Marc chapitre 1, verset 10. Il est question du Fils qui est baptisé, de l'Esprit qui descend sur lui, et qui c'est qui a dit, voici mon Fils, le Père. Si vous regardez bien, il y a plein de textes trinitaires dans la Bible, et Eric va nous éclairer vendredi soir, ou vous éclairer, parce que moi je serai à l'étranger, mais il y a des textes trinitaires. Dieu a confirmé le message, les apôtres et les premiers chrétiens ont confirmé le message, et les apôtres et les premiers chrétiens, ils ont vu, ils ont entendu des témoins oculaires, des témoins auriculaires, je ne sais pas si ça se dit, mais on dirait, bon, bref, vous avez compris, ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses et ils en ont parlé. Et certains ont pu faire des miracles. Dans le livre des Actes, il est surtout question des miracles accomplis par la main des apôtres. Mais là, il est question des premiers chrétiens qui ont fait, et derrière, il y a trois mots, des signes, des prodiges, des miracles. Encore, est-ce qu'il s'agit des mêmes choses? Signes, prodiges, miracles. Ah ben non. Regardons ces mots de plus près. Des signes, c'est ce qui confirme l'authenticité ou l'autorité de quelque chose ou de quelqu'un. Jésus a accompli des signes, ça a confirmé qui il était. Et les gens étaient souvent bouche bée devant ce que Jésus faisait. Et les signes parlent souvent à l'intelligence de quelqu'un. Ensuite, il y a des prodiges. À ne pas confondre avec prodigue. Hein, au début, quand j'étais en France, j'ai parlé de fils prodige. Au lieu de parler de fils prodigue. Puis quelqu'un m'a corrigé et je pense que je n'ai pas fait cette faute depuis 40 ans. Prodige, quelque chose qui pousse quelqu'un à s'émerveiller. Dans une autre traduction, c'est le mot merveille. On s'émerveille devant ce que Dieu a fait. Et un prodigue parle à l'imagination de quelqu'un. Hein? On s'émerveille. Et puis, il y a des miracles. Une manifestation qui pousse, une manifestation d'une puissance surnaturelle qui ne s'explique pas par le raisonnement humain. Des miracles. Et il est question donc des premiers chrétiens qui ont accompli des signes, des prodiges et des miracles. Et les miracles parlent au cœur de quelqu'un. Quand on se convertit grâce à la tête, grâce au cœur. Hein? C'est l'intelligence, les sentiments, les émotions, la volonté. L'intelligence, l'imagination et le cœur des gens. Ces trois manifestations du Saint-Esprit sont mentionnées ensemble dans Actes, chapitre 2, verset 22. Mais pas dans le même ordre. Dans le ministère de Jésus, il a accompli des miracles, des prodiges et des signes. Il faut dire que l'ordre n'a aucune importance. Mais Pierre, dans sa prédication le jour de la Pentecôte, parle de ces trois manifestations. Miracles, prodiges et signes. Mais ces trois manifestations sont également mentionnées lorsque Paul écrit aux premiers Thessaloniciens. Et il dit que le diable et les faux prophètes, à la fin des temps, avant le retour du Seigneur Jésus, ils vont accomplir des miracles, des signes et des prodiges mensongers. Encore, l'ordre est différent, mais à mon avis, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, c'est le mot mensonger. La stratégie du diable et des faux prophètes dans le dernier temps, c'est de séduire les chrétiens et de nous éloigner du si grand salut. Vous savez, on rencontre parfois des chrétiens qui nous disent, « Ah là là, tu ne fais pas des miracles dans ton église? Tu ne vois pas des prodiges? » Ben, chaque chrétien est un miracle vivant, dans un sens. Et ils nous parlent comme si on est des chrétiens de la Ligue 2 ou de National 4. Mais bien sûr, l'histoire de la Coupe de France prouve qu'une équipe en National 4 peut battre une équipe en Ligue 1. Mais bon, laissons le foot de côté. Non, j'arrête de penser au foot. Bon, tout ça pour dire que, non, tout chrétien ne va pas faire des signes, des miracles et des prodiges, etc., etc. Mais même si au premier siècle, c'est bien marqué, Dieu avait agi de cette sorte-là, Dieu peut toujours agir comme cela en 2024. Hein? Personne ne dort, j'espère. En 2025. Il y a 3 jours, j'étais au téléphone avec un ami qui est président d'une association qui travaille dans un pays qui figure parmi les 5 pays les plus où les chrétiens sont les plus persécutés au monde. Et dans ce pays, il y a une œuvre évangélique et gérée par une dame, une Française, et je sais que quelques personnes dans cette église, elles ont le livre de cette femme. En tout cas, je ne peux pas mentionner le nom pour des raisons évidentes, mais il y a 3 semaines, les autorités musulmanes de ce pays ont écrit à cette femme pour dire « On va venir visiter votre école et votre centre d'éducation. » Alors, quand les autorités écrivent à des chrétiens pour dire cela, ça veut dire que si ça ne plaît pas, on ferme tout de suite et vous tous, on vous embarque et on ne parlera plus de vous parce que vous serez dans un trou, une prison jusqu'à la fin de votre vie. Donc, la dame a demandé un élan de prière pour elle et pour son équipe. Le jour J arrive, les gens sont venus plus tôt que prévu. Et elle n'était pas là. Donc, que les hommes, bien sûr, s'assoient et attendent qu'elle arrive. Quand elle est arrivée pour cette visite et pour ce qu'elle craignait, un interrogatoire, elle arrive dans la pièce où étaient ces hommes assis. Premier miracle, les hommes se sont levés. Un homme musulman ne se lève jamais, bah surtout dans ce contexte-là, devant une femme étrangère et une femme non musulmane. Premier miracle. Deuxième miracle, ils visitent et ils sont courtois, polis, gentils. Ils posent des questions intéressantes. Et puis à la fin, ils la remercient pour tout ce qu'elle fait pour les enfants de leur pays. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est ce qui est arrivé. Donc les hommes partent. La dame remercie le Seigneur, envoie des emails pour dire « Vous avez prié, maintenant vous pouvez louer le Seigneur. » Quelques jours plus tard, d'ailleurs mardi dernier, je crois bien, elle reçoit une lettre des autorités qui la remercie pour tout ce qu'elle fait et qui l'encourage à faire davantage pour les enfants handicapés et les malentendants qu'elle reçoit. Alors, dans ce pays, un enfant handicapé ne vaut rien. Mais ils ont encouragé cette sœur en Christ de faire des choses pour les aider. Un coup de bol? Bien sûr que non. Le Seigneur agit. Ça, c'est un exemple, mais ça date de la semaine dernière. C'est pour ça que j'en parle. On va conclure. Notre si grand salut est unique. Unique quant à son origine, quant à sa transmission, quant à son contenu, quant à ses promesses et quant à son efficacité. Notre salut, notre si grand salut, qui est notre salut parce qu'on l'a cru, on l'accepte, mais ça vient bien sûr du Seigneur. Deuxième chose, si vous voyez, et peut-être vous voyez déjà un chrétien, une chrétienne, qui fait ou a fait des mauvais choix, qui semble être sur une piste glissante. Selon Jacques 5, dans un sens, c'est le devoir de chaque chrétien de prévenir, d'exhorter, d'avertir. Et je peux vous dire que si vous avertissez un chrétien qui est en train de s'éloigner de notre si grand salut, il ne va pas vous remercier. Il ne va pas vous taper sur l'épaule. Ah, merci beaucoup, je t'aime. Très souvent, ça provoque la colère. Parce que la conscience est troublée. Mais on peut toujours prier pour cette personne. Et quand la personne revient, on peut louer le Seigneur pour son œuvre dans la vie de ce chrétien. Pour terminer, un troisième aspect de cette conclusion, je vais vous parler d'un chrétien du 16e siècle. Oh là là, 18e, 19e, 21e et maintenant 16e. Il s'appelait George Wishart. Il est mort le 1er mars, donc c'est presque l'anniversaire de sa mort. 1546. C'était un homme qui est né dans la ville de Saint-Andrews. Alors, Saint-Andrews est célèbre pour quelle raison? Oh, on est des sportifs ici, c'est formidable. C'est une raison pour laquelle j'aime cette église. Je ne pense pas à d'autres raisons, mais bon, bref. Saint-Andrews. Et il est né là-bas. Il était collègue de John Knox, qui était élève de Jean Calvin, donc en lien avec la France. Et George Wishart était chrétien. Il aurait pu s'éloigner de Dieu et choisir une vie simple, facile, pas compliquée. Mais puisqu'il aimait le Seigneur, il a dû quitter l'Écosse et aller en Angleterre. En Angleterre, à cette époque-là, les Anglais aimaient les chrétiens. Oh, les Anglais. Bon, non, ne commençons pas à parler des Anglais. Les Anglais aimaient les chrétiens. Mais il a dû quitter l'Angleterre pour aller en Suisse et puis pour aller en Allemagne parce qu'il était poursuivi. Et puis, il est revenu en Écosse, à Saint-Andrews, pour prêcher l'Évangile. Il aurait pu choisir une vie tranquille. Mais non, je ne veux pas partir la dérive. Je ne veux pas m'éloigner de Dieu. Je veux garder le cap. Donc, il a gardé le cap. Et il avait 32 ans, je crois, à l'époque. Il était arrêté par les autorités ecclésiastiques. Tenez-vous bien. Hein? Et il était brûlé vif. Et il y a un monument juste devant le clubhouse de St. Andrews. Si vous ne savez pas ce que c'est un clubhouse, c'est un peu l'endroit où on y va pour se changer avant de jouer au golf. Et on peut boire un coup, manger aussi. Ce monument est là depuis 3 siècles. C'est moi qui ai pris la photo. Il est le nom de plusieurs dizaines de chrétiens qui ont été brûlés pour leur foi à St. Andrews. Parce qu'ils ont choisi de ne pas négliger leur si grand salut. George Wishart, l'endroit exact où il a été brûlé vif, juste devant le château qui est maintenant en ruine, c'est cet endroit-là. Alors, je vais juste vous expliquer. On voit G et W en pavé. Mais qu'est-ce qu'on voit à côté? C'est une place de parking. Il y a une rue, comme la rue est là où les vivants derrière nous, il y a des places de parking. Mais sur une place, il y a GW. Je ne sais pas si j'aurai le courage de mettre ma voiture au-dessus de cet endroit-là. Mais chaque fois que j'y passe devant, et plusieurs fois parce que mon frère habite sur place, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter. Et non pas de louer cet homme, mais de remercier Dieu pour la foi de cet homme et de tant d'autres. Et j'aurais pu choisir une vie tranquille, entre guillemets, hein, vivre comme tout le monde. Mais il a choisi d'être fidèle à son Sauveur et à son Maître. Parce qu'il savait qu'il avait un si grand Sauveur et qu'il croyait à un si grand salut. Que Dieu nous aide à ne pas partir les dérives. Que Dieu nous aide à garder le cap, malgré toutes les pressions, malgré toutes les tentations devant nous. Que Dieu nous aide à rester fidèles. Et un jour, il va nous recevoir. Il va nous dire, bien, bonne, fidèle servante, bon et fidèle serviteur. Que Dieu nous garde. Prions. Notre Dieu, nous te remercions déjà pour un si grand salut. Nous te remercions pour un Sauveur si merveilleux. Et Seigneur, même si nous avons le cœur froid parfois, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner et de nous rendre zélés et tout chaud, tout feu, tout flamme pour l'Évangile et pour notre Sauveur. Nous te prions de nous garder de la goutte froide. Nous te prions de nous aider aussi à prier pour nos amis qui s'éloignent, qui se sont éloignés. Et nous te prions de nous aider aussi à parler, à exhorter et à avertir. Seigneur, tu es un Dieu si merveilleux. Merci de nous avoir adoptés dans ta famille. Merci car tu nous dis à chacun, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé. Nous te bénissons pour ton amour infini. Amen. Merci à l'équipe technique d'avoir résolu ce problème.